Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une question immense. Qu'est-ce qui fait un leader vraiment inspirant? On a sur la table une série de scripts, des supports pour des formations en leadership, et notre mission, c'est de décortiquer tout ça.
De construire une sorte de portrait robot, en fait.
Exactement, pièce par pièce. On va commencer par le squelette, ses valeurs, ensuite les muscles, donc ses actions.
Et pour finir, on lui donnera une voix, sa manière de communiquer.
C'est ça.
C'est une très bonne image. Parce que l'idée qui ressort de ces documents, au fond, c'est que leadership inspirant, ce n'est pas de la magie.
Non, ce n'est pas un don du ciel.
Voilà, c'est une construction. On va voir comment on passe du rôle de manager, celui qui, bon, fait tourner la machine,
à celui du leader, qui donne envie à tout le monde d'en construire une nouvelle, encore meilleure.
C'est tout à fait ça. Il s'agit moins de donner des ordres que de donner du sens.
Alors, commençons par le squelette, les fondations. La première qualité que les sources mettent vraiment en avant, c'est l'honnêteté.
Mmh.
Bon, honnêtement, ça peut paraître un peu bateau, non? On attend ça à tout le monde.
Oui, c'est vrai, on pourrait le penser. Mais c'est là que ça devient intéressant. Les sources ne voient pas l'honnêteté comme une simple qualité morale.
Ah non?
Non, pour elles, c'est l'infrastructure, la base technique sur laquelle tout le reste repose.
L'infrastructure?
Oui. Pensez-y. La meilleure vision du monde ne sert à rien si personne ne vous croit sur les chiffres du trimestre dernier.
D'accord. C'est très concret.
Très. Et un des scripts souligne même un piège. L'honnêteté, ce n'est pas la transparence totale, brute.
C'est-à-dire?
Un leader qui partage toutes ses angoisses en son équipe, il n'est pas inspirant. Il est juste anxiogène. L'honnêteté inspirante, c'est la droiture, la fiabilité.
C'est dire la vérité même quand c'est difficile, mais de manière constructive.
Exactement.
D'accord. Donc l'honnêteté, c'est pas un sentiment, c'est un mécanisme qui bâtit la confiance.
Voilà.
Et j'imagine que c'est cette confiance qui permet d'introduire la deuxième qualité, avoir une vision, être tourné vers l'avenir.
Bah oui. Sans confiance, une vision, ce n'est qu'un discours, une promesse en l'air.
C'est ça.
L'honnêteté rend la vision achetable par l'équipe. Les gens ne suivent pas une stratégie, au fond. Ils suivent une personne en qui ils ont confiance.
Une personne qui porte cette stratégie.
C'est ça. Les documents insistent beaucoup là-dessus. On a besoin de savoir où on va, mais surtout pourquoi notre travail de tous les jours, parfois répétitif,
a de l'importance dans le grand schéma.
Voilà. La vision, c'est ce qui connecte le boulot du lundi matin au rêve de l'année prochaine.
Et pour compléter ce trio, les sources ajoutent deux autres qualités. Être motivant et être compétent. La compétence, bon, ça paraît évident.
Oui.
Mais il y a une phrase qui m'a marqué. Ils disent que la compétence complète le cercle de confiance. Ça veut dire qu'on peut être super honnête, avoir une vision géniale, mais si on est vu comme incompétent, tout s'effondre.
C'est exactement ça. La compétence, c'est la preuve que vous n'êtes pas juste un beau parleur.
D'accord.
C'est ce qui rassure l'équipe. Le capitaine sait lire une carte, il sait naviguer dans la tempête. Et tout ça nous amène à trois mots souvent un peu mélangés. Caractère, intégrité et crédibilité.
Ah oui, c'est important de clarifier ça.
On peut les voir comme des poupées russes. Le caractère, c'est la plus petite poupée. Ce sont vos actions de tous les jours, ce que les gens voient de vous.
Mmh.
L'intégrité, c'est la poupée du milieu. C'est la cohérence parfaite entre ses actions et vos paroles.
L'alignement.
Et la crédibilité, c'est la grande poupée qui contient tout. C'est le résultat. C'est la réputation qui vous précède quand tout ça est aligné.
C'est limpide. Donc, on a le squelette, honnêteté, vision, compétence, et le tout est cimenté par cette crédibilité.
Qui se construit dans le temps.
Absolument. Maintenant, mettons des muscles là-dessus. Comment est-ce que ça se traduit en action, en comportement concret? Le premier que les sources citent, c'est « responsabiliser ».
Et attention, le mot est important. Ce n'est pas juste « déléguer ».
Quelle est la différence?
Déléguer, ça peut être se débarrasser d'une tâche. Responsabiliser, c'est confier une mission, un objectif, et surtout s'assurer que la personne a les outils, l'info, le soutien pour y arriver.
D'accord.
C'est dire, je te fais confiance pour atteindre ce sommet, et voilà la carte, le piolet et la corde. Je ne grimpe pas à ta place, mais je suis là.
C'est un transfert de confiance, pas juste de travail.
Exactement.
Je vois, et juste après ce comportement de confiance, les sources enchaînent avec quelque chose de beaucoup plus disruptif.
Ah oui.
Elle parle de remettre en question le système existant. Ça sonne presque comme un appel à la rébellion, non?
C'est un peu ça. C'est le leader en tant qu'agent du changement. Et les scripts sont très lucides là-dessus. Ils préviennent.
Attendez-vous à de la résistance.
Voilà. Imaginez une entreprise où les notes de frais prennent 3 semaines à être validées.
Classique.
Remettre en question le système, ce n'est pas juste dire « il faut aller plus vite ». C'est oser demander en réunion « au fait, pourquoi 4 signatures? Est-ce que ça prévient un vrai risque ou est-ce que ça ralentit juste tout le monde?
Et c'est là qu'on se heurte au fameux On a toujours fait comme ça.
C'est ça, les intérêts bien ancrés, les habitudes.
C'est un super exemple, c'est très concret. Et j'imagine que pour faire passer ce genre de changement, il faut les deux autres comportements mentionnés. Hein. Encourager les autres et...
Donner l'exemple. Ton manager qui attend le lancement final pour dire bravo. Les sources insistent sur l'inverse. Célébrer le fait que le prototype a marché pendant les tests.
Même s'il a planté 2 heures après.
Exactement. C'est reconnaître l'effort, pas seulement le résultat final. C'est ça qui maintient l'énergie de l'équipe dans les moments difficiles.
Et pour ce qui est de donner l'exemple, c'est un peu la cerise sur le gâteau, non? C'est ce qui rend tout le reste crédible.
Je dirais même que ce n'est pas la cerise, c'est le gâteau lui-même.
Ah oui.
Un des scripts a cette formule toute simple, mais redoutable. Si vous attendez du courage de votre équipe, soyez courageux.
Simple et efficace.
Si vous voulez qu'ils travaillent dur, commencez par travailler dur vous-même. Donner l'exemple, c'est la preuve vivante de l'intégrité dont on parlait.
C'est l'alignement ultime entre les paroles et les actes.
C'est ça qui fait qu'une vision n'est plus un simple PowerPoint, mais une réalité incarnée par quelqu'un.
Et bien sûr, pour que les gens voient cet exemple, pour qu'ils comprennent la vision, il faut communiquer.
Évidemment.
Mais j'ai l'impression que les sources ne parlent pas de la communication au sens classique du terme.
Pas du tout, non. C'est là qu'elles introduisent une distinction que j'ai trouvée vraiment géniale. Elles disent qu'un leader doit créer deux choses. Un flux d'informations.
D'accord, ça c'est classique.
Et un flux d'imagination.
Un flux d'imagination, c'est-à-dire? Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, le flux d'informations, c'est simple. Les chiffres, les objectifs, les comptes rendus. C'est le quoi et le comment.
Ok.
Mais le flux d'imagination, c'est le pourquoi et le imaginer si. C'est la capacité à peindre un tableau vivant de l'avenir.
Donnez-moi un exemple.
Ce n'est pas dire notre objectif est d'augmenter nos parts de marché de 10%. Ça, c'est de l'information. C'est plutôt dire imaginer un monde où notre produit aide des milliers de personnes à résoudre ce problème. Voilà à quoi ressemblera notre quotidien quand on y sera arrivé.
L'un parle à la raison, l'autre parle au cœur.
C'est exactement ça. Et pour que ça marche, la communication doit être transparente. On partage aussi les galères, pas que les victoires. Et elle doit être bidirectionnelle. C'est un dialogue.
Un dialogue, pas un monologue.
Absolument.
Ce qui nous amène au but ultime de tout ça, la persuasion. Et là, j'aimerais qu'on s'arrête un instant parce que c'est un point crucial des documents.
Oui.
Ils disent en substance que si on doit menacer ou forcer un employé, ce n'est pas un problème de discipline de sa part.
Mais un échec de persuasion de la vôtre.
C'est un retournement de perspective assez radical, non?
C'est un changement de paradigme complet. La source est très, très ferme là-dessus.
Comment ils définissent la persuasion, alors?
Pour eux, la persuasion inspirante repose sur l'authenticité, croire soi-même à son message, et sur le dévouement, créer un engagement profond.
D'accord.
Tout ce qui relève de la coercition, donc les menaces, l'intimidation, la pression, c'est vu comme un outil de dernier recours. C'est plus qu'un aveu d'échec.
Ils utilisent une image pour ça?
Oui, on peut dire que la coercition, c'est comme mettre du kérosène dans un moteur diesel. Ça peut forcer le mouvement à court terme.
Mais ça va tout casser à l'intérieur.
Exactement, ça détruit la confiance, ça tue l'initiative et ça remplace l'inspiration par la peur.
Mais est-ce qu'il y a des cas où c'est nécessaire? Des situations où l'on n'a pas le choix?
La seule unique exception que les scripts tolèrent, et avec d'infinies précautions, ce sont les cas de conformité légale ou réglementaire.
Ah, d'accord.
Quand la loi impose une procédure, ce n'est pas négociable. Mais même là, le leader inspirant expliquera le pourquoi de la règle, plutôt que de juste dire « faites-le, c'est obligatoire ».
Pour tout le reste, le message est clair.
Très clair. Si vous devez contraindre les gens, c'est que vous avez échoué à les convaincre d'adhérer à la vision. La vraie persuasion, c'est l'adhésion volontaire. C'est quand les gens font les choses, non pas parce qu'ils y sont obligés.
Mais parce qu'ils en ont envie.
Voilà.
Bon, si on rassemble toutes les pièces de notre portrait robot, le tableau qui se dessine est assez clair, finalement.
Oui, très cohérent.
Le leadership inspirant, ce n'est pas une compétence magique. C'est une architecture. Tout part d'un socle de valeurs personnelles, l'honnêteté, l'intégrité, qui permettent de bâtir la confiance.
Et c'est seulement sur cette fondation qu'on peut poser une vision ambitieuse et la rendre crédible.
Exactement.
Et cette vision, pour ne pas rester un joli dessin, elle prend vie grâce à des comportements, des muscles. On responsabilise les équipes, on ose bousculer les habitudes.
Et surtout, on incarne soi-même le changement qu'on demande aux autres.
Et tout ce système est irrigué en permanence par une communication qui fait bien plus qu'informer, elle donne envie. Elle crée un dialogue et elle persuade sans jamais forcer.
On passe vraiment d'un modèle de commander-contrôle
à un modèle de connexion et inspiration.
C'est une excellente synthèse.
Et pour finir, Il y a une citation dans les sources qui m'a interpellée. Un des scripts cite Napoléon « Un chef est un marchand d'espoir ».
C'est une phrase très forte.
Très forte. Tous les documents qu'on a vus sont très structurés, très rationnels, la vision, l'intégrité, la communication. Mais cette phrase, elle introduit une dimension quasi émotionnelle.
Presque irrationnelle.
Oui. Alors, la question qui reste en suspens, c'est peut-être celle-ci. À l'heure de l'intelligence artificielle et des tableurs Excel, comment fait-on concrètement pour être un marchand d'espoir?
De manière authentique.
De manière authentique, sans passer pour un naïf, déconnecté de la réalité, c'est peut-être ça au fond, l'ingrédient secret qui transforme un bon manager en un leader vraiment inoubliable.